Ce matin, je suis content d'être là parce que j'ai rencontré beaucoup de gens que je n'avais pas revus. Pierre-Alain, Nicolas et compagnie. Et puis, je suis presque ému un peu parce que je ne me croyais pas faire des rencontres pareilles ce matin. Et je remercie le Seigneur parce qu'on n'a que des bonnes choses dans le passé à se dire. Pas des haines, mais des bonnes choses. Oh, que nous soyons le peuple de Dieu, des gens d'amour, de pardon. Amen. Hein? Oui. Oh, que Dieu nous pardonne tous. Le sang de Jésus est là. Moi, j'aime la parole de Dieu. J'aime Dieu, j'aime Jésus. Et j'aime ce qu'il a dit nous concernant. Le sang de Jésus, j'aime le sang de Jésus parce que rien ne peut nous nettoyer le cœur comme le sang de Jésus. Alléluia. Ce matin, je voulais parler un petit peu de ma vie passée. Oh, vous n'avez pas un grand orateur là, vous avez un paysan. Parce que ma nature était agricole. Moi, je viens pas tellement de loin. J'ai bourlingué beaucoup, j'ai été douanier, mais je viens de la vallée des ponts. Donc, j'ai rencontré ma femme. On a fait 51 ans de mariage avec ma Sylvette. Bravo. Ouais. Et ça n'a pas toujours été facile. 12 ans sans le Seigneur, mais après, ça a été beau alors. Est-ce que ça a été beau? Est-ce que c'est beau encore? Oh, ça change pas. L'amour est là, hein. Il n'y a que Dieu qui peut nous donner ça. La vie sans le Seigneur, c'est fade. C'est les choses éphémères, c'est les choses du monde, c'est les choses du présent, c'est les réseaux sociaux, c'est les bouffes, c'est les week-ends. Mais avec le Seigneur, c'est nuit et jour la joie. Il y a la paix dans le cœur. Et on marche dans un but, un objectif. C'est la vie éternelle. Amen. Vivre à paix, cette mort, vivre sans Dieu, c'est terrible. Et je vais parler un petit peu de ça ce matin, je ne veux pas m'égarer. Je voulais juste commencer comme ça. Il y a deux royaumes. Quand j'étais jeune enfant à la vallée des ponts, mon père avait une petite ferme en périphérie des ponts. Bon, je croyais que chacun y fait comme il veut, quoi. Hein. C'est la débrouille, quoi. Mais je ne croyais pas qu'il y avait deux royaumes. On vit sur cette terre, il y a le royaume de l'autre ici en bas, mais il y a le royaume de Dieu. Amen. Et puis c'est bien plus glorieux le royaume de Dieu que le royaume ici-bas. Donc, pour commencer mon témoignage, j'ai dit que j'allais parler un petit peu de ma vie, des choses occultes, de là où je suis passé. C'est pas que moi j'étais une personne ou avec ma femme dans l'occultisme, non du tout. Mais on avait tellement de problèmes quand on a cherché pour s'en sortir. C'est là la clé de ce matin que je vais vous parler. Alors tout gamin déjà, il y avait mon père qui était un paysan, il avait des truies à l'élevage, si vous me comprenez, pour ceux qui sont paysans. Et quand ces truies mettaient bas, elles tuaient tous les petits. Et puis en parallèle, à la vallée des ponts où on était, il y avait un paysan de l'autre côté sur Bro, là-bas, Bro-dessus. Il faisait un secret, il faisait le secret. Alors, quand il avait fait son tour de passe, je ne sais pas ce qu'il faisait, il disait, vous pouvez aller mettre les petits cochons à la truie, elle ne va plus rien leur faire. Et ça marchait. Alors, tout gamin comme ça, j'étais déjà, interloqué par les choses de ce monde, quoi, les choses occultes, les choses secrètes. Alors je voyais que ça fonctionnait. Puis ensuite, quand vous touchez là-dedans, vous êtes en train d'entrer dans un engrenage qui n'en finit pas. C'était une descente aux enfers. Ensuite, mon père a eu des veaux à l'engrais, et les veaux, quand ils faisaient 120, 130 kilos, avant de les mener à la boucherie, les uns après les autres, ils crevaient. Alors il a fait venir des gens, des sourciers. Alors ils venaient avec les baguettes de sourciers. Ils disaient, ouais, il faut placer des machins en cuivre devant la maison. Il y a des forces cosmiques et telluriques qui se rencontrent. Alors ça nous a coûté les yeux de la tête, tout ça. Alors j'apprenais tout gamin ces choses. Et ensuite, après mon père, je dis ça, il est venu très asthmatique. Quand nous touchons à l'occultisme, il faut comprendre qu'on a des comptes à rendre à quelqu'un qu'on voit pas, mais c'est le diable, pour dire carrément les choses. Et mon père est venu très malade à l'âge de 56 ans, il est venu asthmatique, et un jour je l'ai vu, je me souviens de ça, il allait à Pontarlier. Et quelqu'un, je sais pas ce qu'il a fait, il allait chez un guérisseur, et il montait 3 étages presque en courant après. Mais 3 jours après, le drame est arrivé, il est décédé. Oh! Alors là, j'ai vu que ces choses se payaient cash. Mais comment maintenant, quand vous connaissez pas Dieu, comment s'en sortir? Quoi faire? Alors, à l'âge de 23 ans, je me marie avec ma tendre Sylvette qu'elle a ce matin. Et nous allons suivre la même destinée que mes parents, quelque part. Parce que la parole de Dieu est claire. Dieu réclame le péché des pères jusqu'à 3-4 générations. Et ça se passe. Et ça se passe. Et ça s'est passé pour nous. À 23 ans, nous nous marions, mais les problèmes de santé, les mêmes problèmes que mon père vivait, nous commencions à les vivre, les mêmes. Mais comment faire pour sortir de cette spirale, qui est une spirale finalement infernale? Et ce matin, je vais essayer de, en quelques minutes, hein, j'ai 30 minutes pour vous expliquer ça, mais on a rencontré un pasteur au Pont de Martel à l'époque, quelqu'un l'ont connu, Monsieur Sully Pernoud, et nous avait donné cette parole à notre mariage. « Sans moi, vous pouvez rien faire. » C'est Jésus qui dit ça en Jean 15, 5. « Sans moi, vous pouvez rien faire. » Et nous, on n'y a rien compris là-dedans. Nous, on vivait les bouffes, le week-end, le boulot, et puis la vie est belle, quoi. On est jeune, hein, on fait comme on veut, mais quelle hérésie, quelle folie, hein. Je vous dis ça plus... Maintenant, je vous dis ça un peu plus tard. Et ensuite, on a eu un enfant, puis le deuxième. Et Sylvette commençait elle était enceinte de la fille, elle faisait 39 kilos. Et on savait que sa vie était en ballon. Mais moi, je savais pas quoi faire parce que, ouais. Alors, on allait chez des voyants, on allait chez des guérisseurs parce que on avait les muscles qui sortaient, on avait plein de complications. Et la vie était compliquée, très compliquée. Ensuite, on allait vers des gens qui faisaient le pendule. Alors, ils nous disaient qu'il fallait faire ceci, cela. Après, à la maison, on a eu des radiesthésistes. Et puis, les gens sont venus, voilà. Puis après, on m'a dit, faut mettre du sel sous le lit, on vous en veut. Vous voyez, je vous dis ce que j'ai vécu. Et puis, alors, je prends une assiette de sel, je la mets sous le lit. Et là, le même jour, j'ai pris ça. Pendant 2 ans, j'ai craché que du sel. Donc, où est la solution là-dedans? Ça, je vous explique les premières années de notre vie comme ça. Ensuite, on allait chez une voyante à Tenon. C'était la dernière chose. Mais avant, on a une personne à Lausanne où on a versé 6000 francs pour s'en sortir. Et la femme nous disait toujours, mais tu me coûtes une paye. Alors nous, on avait payé 6000 francs et on croyait qu'on allait s'en sortir comme ça. Et on s'en sortira pas comme ça. Et plus tard, la femme me dit, tu me coûtes une paye, il fallait encore lui donner l'argent. Et là, j'ai capitulé, je l'ai laissé. Ensuite, on est allé au canton de Fribourg, on a rencontré toutes sortes de gens comme ça, mais on s'en sortait toujours pas. Et puis après, en 83, Sylvette est venue très malade. Et son dos a commencé de se paralyser. Ensuite, c'est la santé qui n'allait plus chez les enfants. La santé n'allait plus chez Sylvette. Et les complications sont venues partout. Elles sont venues au travail, elles sont venues... Ensuite, Sylvette devait être hospitalisée à la Vallée de Joux au Sentier. Elle avait une hernie discale et 2 tumeurs dans la colonne vertébrale. Alors après, il y avait entre le médecin au Sentier et l'autre médecin, un disait faut du stationnaire, et l'autre médecin disait non, il faut pas la laisser, il faut qu'elle soit mobile, il faut la mettre en mobilité, en physio, je sais pas quoi à l'époque. Et puis, moi, j'étais là au milieu, et un jour, j'ai pris une ambulance, j'ai demandé une ambulance à Lausanne, et je l'ai kidnappé de l'hôpital. Ça, je ne voudrais pas trop faire ça souvent. Aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire. Et je l'ai amené à la clinique Cécile à Lausanne. Et là-bas, j'ai dit, mais il faut la radiographier. Puis ils l'ont radiographiée, ils ont dit, ouais, c'est très grave. Signé au bas de la page, puis ils l'ont opéré le lendemain. Et le lendemain, ils l'ont opéré, et alors là, elle ne se remet pas du tout. Et elle viendra après, on lui demandera 2 minutes pour parler de ce que Dieu a fait. Mais Dieu est grand. C'est là ce matin. Là, le premier volet dit un petit peu ce qu'on a fait, mais je veux passer un petit peu vite là-dessus parce que je voudrais vraiment glorifier Jésus ce matin. Ouais, parce que je veux pas ouvrir une tribune à l'autre de ce qu'il fait, mais je veux élever le nom de Jésus ce matin. Élever sa croix, son amour pour nous, son sacrifice. C'est beau ce qu'il a fait. Et après, elle vous parlera, Sylvette, elle a une main, on allait chez les guérisseurs, elle a une main, elle a senti une main se poser sur son dos, et c'était l'angoisse, la peur. Mais quand Jésus vient, c'est la joie. Quand Jésus l'a guérie, je me souviendrai toujours, c'était une joie immense qui l'inondait. Et la maison était remplie de joie. Jésus est un Dieu de joie. Il est un Dieu de joie. Il est un Dieu de paix. Et ça, c'est inoubliable. Moi, je vois les yeux Sylvette. Elle me dit qu'elle était guérie, là. Le Seigneur la visite. Elle vous dira après. C'est bien qu'elle vienne le témoigner ici. Elle entendait la voix intérieure qui lui disait « Je te guéris, je te guéris. » Et ça menait cycliquement dans la nuit. Ça m'avait bouleversé. Et je la regardais dans les yeux comme ça. Je disais, mais lève-toi, tu peux pas marcher, mais t'es guérie. Alors, elle me disait, mais t'en fais pas. Au fond de mon cœur, je sais que je suis guérie. Alors moi, je raisonnais avec mon intelligence de la voir comme ça. Mais au fond, elle était guérie. Elle savait dans son esprit qu'elle était guérie. Il y avait quelque chose qui était plus fort que l'intelligence humaine. Ça se passait au tréfonds de son cœur. Et je loue Dieu pour ça. Et après, elle s'est levée. Sur le matin, elle vous racontera après comment elle s'est levée. Mais c'était fou. Bon. Après, avec tout ça, bien sûr, quand vous touchez aux guérisseurs, c'est les enfants qui n'allaient pas. On a eu un fils, Stéphane. Il a aujourd'hui 50 ans passé et puis il va bien. Il est directeur financier dans une grosse boîte. Alors, il a eu un problème terrible. Il avait des 12 allergies au pollen ici. Alors, on allait chez les guérisseurs. Elle a rien n'y faisait, rien. Alors on a investi de l'argent. Jusqu'au jour où je vous parle là, je reste dans ce témoignage à Stéphane, on a rencontré le Seigneur. Et lui, il a dit, mais si je suis malade comme ça, Dieu peut me guérir. Et puis là, il a dit, je vais aller dire à mon médecin Rotten, aux Verrières, que je ne veux plus suivre cette injection montante pendant une année et demie. Une injection descendante pendant une année et demie. Je veux dire que Jésus m'a guéri parce que j'ai confiance, j'ai foi en lui. Dans mon corps, je sais que Dieu m'a guéri. Et Stéphane, il est allé avec sa mère chez le docteur Rotten aux Verrières. Et le docteur Rotten, il a dit, vous êtes fou. Et il n'a pas dit ça, mais c'était tout comme, quoi. Mais je le comprends un petit peu, quoi. Et le gamin était complètement guéri. Avoir une guérison, c'est beau. Mais la garder, c'est une autre chose. Et une année plus tard, l'enfant avait les yeux, quand les poches venaient sous ses yeux, il ne voyait plus jour. Ses yeux, c'était rempli d'eau. Alors, il ne pouvait plus aller à l'école. Mais c'est la puissance de la prière collective et l'unité dans la foi fait la différence. Et avec sa sœur, la maman et moi-même, nous sommes réunis et nous avons pris autorité sur la maladie qui revenait sur Stéphane. Et un jour après, elle était complètement libérée. Et maintenant, ça fait plus de 40 ans et la maladie n'est jamais revenue. Gloire à Dieu. Donc, nous avons une autorité dans le Seigneur. Nous avons son nom. Alors après, j'ai eu des difficultés professionnelles avec tout ça, avec tous ces guérisseurs. Et je voudrais vous dire, ce matin, j'ai dû quitter le poste de douane aux charbonnières où j'étais pour aller aux Verrières où j'ai rencontré Père Alain Wenger. Et là, en quittant, on croit qu'on quitte un lieu dans la vie, c'est une hérésie, on quitte un lieu pour aller dans un autre, tout ira bien. C'est faux. C'est faux. Le problème est dans nos cœurs. Il n'est pas si loin que ça, finalement. C'est notre cœur qui est le problème. Et je suis arrivé aux Verrières, et là, j'ai eu deux accidents de la route terribles. J'ai tourné avec une gifle de la douane, fond sur fond, on aurait dû tous mourir, mais on vit, on n'y comprend rien, Dieu est fort. Quand il prédestine quelqu'un, il te garde, il nous garde. Et je remercie le Seigneur d'être vivant aujourd'hui, d'avoir pu traverser ces expériences terribles, mais douloureuses, mais glorieuses quelque part. Dieu est fort, Jésus est vivant. Sache, dans nos problèmes, nos complications, il est là. On peut lui faire confiance. Ensuite, avec ma fille, je remontais des ponts de Martel, j'avais un chien de douanier, un chien de service, et là j'ai encastré ma voiture dans un mur. Et 300 mètres plus bas, il y a le but, ça s'appelle, c'est une petite rivière qui coule au Val de Travers. Et pour une affaire d'un mètre, on s'encasse dans le mur et j'ai sauvé notre vie. Et je remercie le Seigneur encore là, on devait mourir ce jour-là. Et je suis là, gloire à Dieu. Donc, ça c'est la manifestation des conséquences quelque part. Quand nous sommes dans l'occultisme, quand nous servons les puissances, nous cherchons auprès des puissances spirituelles, c'est ça qui nous vise. Nous sommes touchés. Mais en Jésus, c'est le premier volet, je viens sur le deuxième après. Pour clore le chapitre un petit peu, quand vous avez touché à tellement de choses, il y avait des manifestations dans la maison. Alors, ça tapait dans la baignoire, il y avait les portes qui se fermaient tout seuls, il y avait des bruits tout le temps, et les gamins étaient terrorisés. ça nous atteignait profondément. Donc il y avait des manifestations que, voilà. Et ça, c'était les 12 premières années de notre mariage. Et nous avons vécu comme ça. Maintenant, je viens sur le volet bien plus intéressant. Comment rencontrer le Seigneur dans des situations comme ça? Alors un jour, c'est là que je viens ce matin, ça me plaît beaucoup mieux. J'étais dans mes tournées douanières, Rochette, où Piranha Wenger connaît bien le lieu. Et là, je rencontre une grand-maman qui a 72 ans. Ça nous montre qu'il n'y a pas d'âge pour parler des choses de Dieu. Et cette femme s'approche de moi. J'étais en uniforme douanier, c'était au mois de janvier 83. Il y avait une immense neige, c'est pas des, comme cette année où les, ouais. Et puis, je partais en tournée douanière contre l'Aubersson. Et ce jour-là, je devais être accompagné d'un deuxième collègue, mais il était malade, donc je suis parti tout seul. Et cette femme-là, cette grand-maman m'a parlé de Jésus. Elle m'a dit, quand j'étais dans cette maison, quand je suis arrivé, c'est l'ancienne douane des Rochettes, il y avait plein de choses occultes dedans. Mais quand elle savait pas, cette personne, je ne la connaissais pas, quand elle me parlait, c'est comme si c'est ma vie qu'elle parlait. Elle parlait à mon cœur. Mais j'ai dit, madame, tout ce que vous me dites, c'est vous me parlez à moi. Elle dit, je sais pas pourquoi, mais je vous dis comme ça. J'ai dit, mais j'ai plein de problèmes comme ça, madame. Elle a dit, je vais prier pour toi. Alors moi, je suis parti contre l'Aubersson. Et je suis dans la forêt, je suis sur mes skis de fond, là, je tourne comme ça. Et j'avais le sentiment qu'il y avait quelqu'un autour de moi. Les prières de cette dame commencent à déclencher quelque chose dans ma vie. C'est pour ça qu'il est bon, le peuple de Dieu, de prier pour ceux qui nous entourent, nos familles, ceux qui ne sont pas au Seigneur. La prière dans le Seigneur est vivante, elle est puissante. Et je vous encourage à être des hommes, des femmes de prière. La prière a tout changé dans mon existence. Elle change encore beaucoup de gens autour de nous. Gloire à Dieu pour ça. Alors je suis là, je tourne, et tout d'un coup, moi j'étais un dur, ancien gorille de l'air à la Suissère, j'étais violent, j'étais un petit violent. Pas fort comme Biralin, mais un petit violent. Et puis, quand je suis là dans ma situation, je me mets à pleurer. Et je me dis, mais, et gros, tu pleures, mais t'es plus toi, t'es pas toi-même, tu pleures. Alors j'en revenais pas, moi, pleurer, je n'avais jamais pleuré. Et je pleurais. Et ça m'a broyé le cœur, ça. Et je ne me reconnaissais plus. Alors je cherchais quelqu'un. Il y avait comme une présence. Mais les prières de cette dame déclenchaient quelque chose. Je rentre à la maison, je parle à ma femme de ça. J'ai dit, j'ai rencontré une femme chrétienne de foi. Elle m'a parlé de Jésus-Christ. Puis elle me dit, ouais, écoute Fernand, tu ne faut pas trop mélanger. On va à Lausanne, on a déjà donné 6000 balles à cette dame. Tu ne vas pas recommencer ailleurs. J'ai dit, ok. Oh, j'ai laissé ça un petit peu de côté. Mais un mois plus tard, une voix intérieure me dit, retourne là-bas, retourne aux Rochettes voir la vieille dame. Alors je l'appelle, je lui dis, madame, je voudrais vous voir encore un coup. Puis elle me dit, bienvenue, ben viens, quoi. Oh, moi, bouteille chevrée chambertin, je croyais que j'allais y faire plaisir. La dame, elle a fait un vœu d'abstinence pendant la dernière guerre. Elle était guérie du typhus, elle me racontait toute une histoire. Oh, puis elle m'a poussé la bouteille de coin, ça l'intéressait pas beaucoup, quoi. Bon, bref. Et puis après, elle me parle de Jésus. J'ai dit, mais moi, je connais pas Jésus. C'est qui Jésus? Puis alors, elle sort la Bible. J'ai dit, mais écoutez, madame, je supporte pas la parole de Dieu. Vous me dites la parole de Dieu, ça, je supporte pas. Arrêtez de me parler de ça. Elle me dit, oh, c'est pas grave, c'est les puissances, elle me dit, c'est les puissances. Et cette dame, je la vois toujours, elle était blanc-bec, hein. Elle se lève, elle m'empoigne la tête, elle dit, au nom de Jésus, Satan, lâche ce jeune homme. Wow! Et moi, ça m'a secoué, j'étais comme ça, presque, ouais. Moi, je vous dis comme ça s'est passé, hein, je vous raconte pas autre chose, donc bon. Puis après, vers minuit, je l'ai écouté encore, bon. Puis on rentre à la maison. C'est là que tout, Dieu est grand, Dieu est bon, Dieu est fort. Et cette nuit, je rentre à la maison. J'entends 1h du matin au clocher du village aux Verrières. Puis 2h, puis 3h. Et à 3h du matin, c'est comme un au-delà. Je suis comme vous réveillez maintenant, parce que vous êtes bien réveillés. Mais là, c'est l'enfer qui existe. Je savais cette nuit-là que l'enfer existe. Wow! Oh! Alors ça, c'est trop fort. Mon corps est venu paralysé. J'entendais des voix qui me parlaient en français clair, un français distinct. Et je savais que cette nuit-là, je vous détaille pas plus, je veux pas aller à fond là-dedans. Le temps est imparti, mais je voudrais pas, non. mais je savais que j'étais perdu. Wow! Alors, cigarette, alcool fort, ça c'était mon tempo. Et puis, ma femme dort. 5 heures, elle se réveille. Ça c'était 3 heures. 5 heures, elle se réveille. J'en ai bu 2-3 petites pommes avant parce que j'avais besoin de me ressourcer comme ça. Ouais, excusez, mais ouais. Et puis, je l'explique ça. Je dis, Sylvette, l'enfer existe. La vie qu'on mène n'est pas une bonne vie. On vit en côté de Dieu. Si ça, ça existe, autre chose existe. Et puis elle me dit, ouais, moi j'ai fait le catéchisme réformé, j'allais au temple réformé, j'ai fait la communion, on prenait la Sainte Cène, elle me racontait des choses comme ça. Puis j'ai dit, ouais, mais c'est peut-être ça qu'il nous faut. Et puis alors j'ai dit, mais la dame aux Rochettes, elle a dit la parole de Dieu. Et puis ok. Alors on a commencé comme ça. Et puis un jour, cette dame, je le rappelle le lendemain, mais j'étais brisé, hein. Cette nuit-là, quand je vous raconte ça, ça vous laisse pas orgueilleux, hein. Ça vous brise. J'étais cassé le lendemain. Et j'appelle la dame aux Rochettes en pleurant, hein. J'étais cassé. Je lui dis, madame, voilà ce qui s'est passé cette nuit. Je veux pas aller en enfer. Je veux pas finir ma vie là-bas. Est-ce qu'il y a une solution? Elle m'a dit, oui, la solution, il y en a une. Il faut donner ton cœur à Jésus-Christ. Puis j'ai dit, mais on fait ça comment? Moi, je connais pas Jésus. Je lui ai dit, je connais pas Jésus, faut faire comment? Elle m'a dit, ben tiens, tu vas à Orvin, et puis là-bas, ben, il y a Jean-Peter Schmitt, c'est un pasteur qui venait de passage. Il me dit, ben, il va prier pour toi, puis il y a des anciens dans l'église. Voilà, bon, ok. Et nous voilà partis à Orvin avec ma femme et les gamins. Et il y a un ancien, là, de l'église d'Orvin à l'époque, qui est décédé aujourd'hui, il me reçoit. Et puis, il me prend de midi une heure entre la prêche de Monsieur Peter Schmitt le matin. Il me prend chez lui. Et puis, il me dit, mais t'en es où? Tu veux quoi au fond? J'ai dit, ouais, mais je voudrais, j'ai tellement de problèmes. J'ai tellement de ces guérisseurs. Je voudrais voir autre chose. Et la dame m'a parlé de Jésus. Et puis là, il me prêche l'amour de Dieu. Il me prêche la croix de Jésus. Il me prêche la grâce de Dieu. Il me prêche le pardon de Dieu. Et j'ai dit, mais j'ai besoin de ça, monsieur. J'ai besoin de quelque chose comme ça. Mais on fait comment? On fait comment? Il me dit, mais t'es un pécheur, t'as des péchés? Oh, j'ai dit, moi, des péchés? Tout plein! Mais tout plein, mais j'ai fait les 100 coups! Mais tout plein des péchés! Moi, je me voyais pas si beau que ça, hein? Mais j'aime trop, trop. Puis au bout d'un moment, il m'apporte là, il lit des textes bibliques, j'écoutais. Et puis j'ai dit, monsieur, je veux pas partir d'ici comme je suis venu. Ah, il me dit, ça c'est une bonne chose. Il me dit, tu dois donner ton cœur à Jésus-Christ. J'ai dit, mais monsieur, on fait comment? Ouais, mais c'est pas compliqué, hein? Tu demandes pardon à Dieu pour tous tes péchés. Alors ça, je peux, hein? J'ai dit, ça, je vais demander vraiment pas au Dieu que je vois pas, je vais lui demander pardon. Puis il me dit, ben ça c'est déjà pas mal. Mais tu te mets à genoux et puis je vais prier pour toi. J'ai dit, que ça? Ouais, il me dit, fais ça, mais de tout ton cœur. J'ai dit, ouais. Puis ma femme est à côté, là, comme ça. Puis elle me dit, toi, tu vas faire ça? Moi, j'ai dit, oui, oui, moi, je fais ça. Moi, je repars pas d'ici avec mon sac touriste et puis tous mes problèmes, hein. Alors ma femme dit, si tu fais ça, je le fais avec toi. J'ai dit, t'es libre, c'est ton choix. Mais mon cœur veut se donner à ce Dieu qu'on me parle maintenant. J'ai besoin d'une solution. Et s'il est le Dieu fidèle, le Dieu vrai, le Dieu vivant, le Dieu de la parole que vous m'avez parlé, il va agir dans ma vie. Alors je me suis mis à genoux. Et quand cet homme a posé sa main sur moi, ça m'a passé des pieds à la tête. Je me suis relevé. Oh, tous mes péchés, ça défilait, mes péchés, mes péchés, mes péchés. Je voyais que des péchés. Alors j'avais envie de restituer, de réparer, d'aller trouver les gens, de demander pardon. Est-ce que j'ai fait? Et ça a duré longtemps, mais ça m'a libéré. Et j'ai trouvé la paix dans le cœur, avec tout le monde. Je vous connais pas, mais je vous aime. Parce que Dieu m'a donné un amour pour les gens, que j'avais pas avant, je les aurais tués avant. Mais non, mais Dieu nous, quand il transforme nos vies, il nous donne d'aimer les autres. Il y a quelque chose qui se passe en Dieu qu'on comprend pas. L'essence de Dieu, c'est l'amour, c'est pas la haine. Moi, j'ai connu tellement de guérisseurs, tellement de haine, tellement d'opposition, tellement, tellement, que quand j'ai vu comment Dieu fait, il a restauré ma femme, il m'a donné un amour fou pour elle. Les plus belles années de notre vie, c'est dans le Seigneur. C'est pas avant, avant. C'est que des bouffes, des histoires, des cochonneries. Excusez-moi de dire la vérité, mais c'est comme ça. Mais en Dieu, il y a quelque chose qui est vrai, qui est saint, qui est droit, qui est pur, qui est juste. Dieu est fidèle, il est bon, il restaure, il guérit, il libère, il transforme. Amen. Alors ça c'était notre démarrage dans la vie nouvelle, on peut dire. Et notre désir était vraiment de changer, de découvrir autre chose. Après, il y a eu les 12 années où Sylvette a été soignée. Elle était soignée pour des vers, elle était dépressive, ma femme. Elle était soignée au Cadol. Et le jour où elle s'est mise à genoux, là, devant cette ancienne église, là, c'était à Orvin, en 1983, en mars 83, pour être précis, elle s'est mise à genoux, là, les vers intestinaux, elle était rongée de vers, elle suivait des traitements, elle était délivrée instantanément. Et elle était dépressive complète. Elle prenait des pastilles, toutes les couleurs. Elle était délivrée de la dépression. Et Dieu a fait tellement de choses, instantanément. Waouh, Dieu est grand. Et quand vous voyez ça se passer, vous êtes obligé de parler de lui. Ça vous touche, ça. Ça a réformé toute notre vie. Ça a changé tout, du tout au tout. Moi, je ne peux pas rester de marbre devant un Dieu si grand, si bon. Et il est bon pour tout le monde. Il n'a pas de chouchou, Dieu. Parce que nous, on était des vagabonds, des pécheurs. On ne méritait pas une telle grâce. Ce n'est pas au mérite, c'est la grâce. La grâce, ce n'est pas un mérite. Tu ne mérites rien ce matin. Mais Dieu t'aime parce qu'il t'a créé, t'a voulu comme ça. C'est la grâce. Et la grâce, on ne la comprend pas. On veut tout essayer de gagner. On veut tout essayer de mériter parce qu'on nous a pris ça sur cette terre. Non! Dieu est un Dieu d'amour et un Dieu de grâce. On ne comprend pas Dieu. Nous ne comprenons pas. On a tout à apprendre de lui par le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, pour revenir, alors notre vie, c'est pas allé d'un seul coup. Je ne veux pas vous raconter des histoires. Il y a eu des étapes dans la vie. On allait de progrès en progrès, de guérison en guérison, de délivrance en délivrance. C'est pas venu tout d'un coup. Et Dieu nous a enseigné pendant ce temps. Et s'il nous délivre pas tout de suite, il y a quelque chose de plus fort que Dieu veut. C'est ton cœur. Dieu veut notre cœur. Il veut nous guérir. C'est vrai qu'il veut nous guérir. Mais il veut te donner la vie après la mort. Il veut te donner la vie éternelle. C'est là le but ultime de Dieu. C'est que tu sois sauvé pour vivre après. Ici, tout va passer sur cette terre. Tout va passer. Les belles maisons, tout va être anéanti. Un nouveau ciel, une nouvelle terre où la justice habitera, la paix, la joie, l'amour, la joie éternelle. Il ne faut pas rêver ici-bas. On rêve trop. Il ne faut pas s'attacher autour de la terre. Dieu nous a détachés des choses de la terre. C'est une grâce, peu à peu, Dieu a enlevé ce que j'aimais dans ce monde. Le hockey sur glace, le ski, mais c'est fini tout ça. C'est fini. Je suis content de ma situation. Je suis content que Dieu a libéré mon cœur, mes pensées, des convoitises de cette terre. Je ne convoite plus rien ici. Ici, je sais tout est passage, c'est éphémère. Tu peux avoir de la richesse, de la fortune. Tu peux être quelqu'un, je m'en fous de tout ça. Excusez-moi mon langage, hein. Je m'en fous de tout ça. C'est gagner Christ et gagner l'éternité qui me compte. Et une vie, c'est court. Quand je parle avec Sylvette, je dis, mais une vie, c'est rien du tout. L'air, on était beau, on avait 20 ans, maintenant on a 70 ans passé. Mais ça a passé, vous, comme un courant d'air. Là, t'es jeune aujourd'hui, mais demain, t'es vite vieux. Et puis, il faudra répondre un jour devant le trône de Dieu. Mais gloire à Dieu, Dieu nous aime. Oh, c'est bon ça. Oh, c'est bon. Moi, je demanderai à Sylvette de venir ici, gentiment. Mais je vais vous dire, j'ai rencontré Michel Renevier. Qui a connu Michel Renevier? Peut-être. Oh, beaucoup. Ouais. J'ai aimé cet homme. Et un jour, cet homme, je l'ai croisé, j'avais plein de problèmes. Et puis, je dis à Michel Renevier, monsieur le grand pasteur, je lui dis, prouvez-moi que la Bible, c'est vrai. Puis il m'a dit, mais mon cher, Dieu ne se prouve pas, il se rencontre. Waouh, j'ai trouvé cette parole juste géniale. Dieu se prouve pas, il se rencontre. J'ai dit, mais alors on fait comment pour rencontrer Dieu? Il me dit, j'ai pas grand conseil à te donner, mais tu prends la parole de Dieu, la Bible simple, la parole de Dieu, et tu lis surtout l'évangile. Tu commences à lire l'évangile et les épîtres. Et tu lis et tu lis. Et tu verras, Dieu va se révéler à toi si tu as un cœur honnête et sincère. Alors j'ai dit, merci monsieur. Alors j'ai commencé à lire et à lire et à lire. Et tout d'un coup, un après-midi, je travaillais la nuit à la douane, je me repose le matin, et l'après-midi, avant de retourner au boulot, je lis la parole de Dieu, longtemps, 1 heure, 2 heures. Et tout d'un coup, quelque chose est sorti de moi. Wow! Et ça sentait extrêmement mauvais, mais il n'y avait pas de solide. Et la joie m'a animé. À partir de ce moment, la joie m'a animé. Wow! J'avais rien payé, mais la parole de Dieu m'a libéré. Amen! C'est pour ça, ne méprisez pas la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est puissante par le Saint-Esprit. Derrière, elle libère, elle guérit encore. Lisez la parole de Dieu. Cherchez pas mille endroits ailleurs. Dans la parole de Dieu, il y a Dieu. Elle est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu libère les captifs. La parole de Dieu guérit les malades encore. Amen. Attends-toi à Dieu quand tu lis sa parole. Prends la Bible comme si Dieu est là. Il est là. Et il est là ce matin. Il est là ce matin. Et cette parole te libérera. Cette parole te guérira. Et cette parole te conduit dans l'éternité. Amen. Soyons des hommes et des femmes de la parole de Dieu. Si je peux vous dire ça ce matin, s'il vous reste que ça ce matin, il vous restera le principal. Amen. Je donne la parole à Sylvette, elle va vous raconter comment Dieu l'a guérie de sa paralysie.
Bonjour à tous. Donc pour moi, depuis toute jeune, j'avais des problèmes musculaires, où on allait avec mes parents chez la cousine, à Saint-Sulpice, etc. Et puis, là-bas, elle faisait le secret. Et ça a été pendant des années où tous les hivers, j'avais des sciatiques. Et je devais toujours retourner toujours plus souvent. Et le problème, il a été que jusqu'à en 1983, après un nouvel an, mais vraiment trop arrosé, c'était le 3 janvier où là, je pouvais plus marcher, plus rien aller. Et j'ai dit, je retourne chez la cousine. Et le problème, c'est que la cousine m'a dit, cette fois, c'est fini pour toi, je peux plus rien faire. Et moi, je savais plus quoi faire. Et là, on a été chez le médecin, et le médecin, il est des piqûres, j'étais au lit, je pouvais plus marcher, j'avais mes jambes qui me portaient plus. Et puis, on a fait 10 jours de piqûres, et le soir de mon anniversaire, la veille de mon anniversaire, j'ai demandé d'aller à l'hôpital. J'ai fait 3 semaines d'hôpital, comme Fernand a dit, c'était... Il ne trouvait pas la solution. Fernand m'a fait embarquer en ambulance. On arrive à la clinique Cécile. La clinique Cécile, au CHUV, et le lendemain matin, j'étais opérée. Donc, j'ai été opérée d'une hernie discale de tumeur dans la colonne. Et là, c'était vraiment très, très, très compliqué. Je faisais à peine 40 kilos. Et pas le moral, la dépression. On était mal pris par l'alcool, la fumée, etc. Et puis, on a demandé encore recours à Capucin, à plein de gens, toujours dans l'occultisme. Et puis, dans la 2-3 nuits qui ont suivi mon opération, au milieu de la nuit, il n'y avait personne autour de moi, j'ai senti une main dans mon dos. Et là, j'ai eu la peur de ma vie. C'était terrible. J'étais angoissée. J'avais peur. Je ne savais plus où j'en étais. Et le lendemain, j'ai mon frère qui est venu nous visiter. Et je plantais les ongles et je lui disais, mais je veux pas crever. Mais j'avais peur de mourir. C'était l'horreur. C'était terrible. Et pendant 2 ans après, ça allait, mais ça n'allait pas bien. J'étais pas bien dans mon corps. Je prenais pas de poids. Je déprimais. Enfin, c'était compliqué. Et nous nous sommes convertis là-bas à Orvin quand j'ai ouvert mon cœur au Seigneur. Et là, comme il a dit, il m'a délivré complètement de la dépression, instantanément. Il m'a délivré de ces vers que je me faisais soigner plus de 12 ans. Donc là, j'étais libérée. Mais ce qui s'est passé, c'est que 3 ou 4 mois après, le mal de dos, il est revenu comme avant l'opération. Et là, je comprenais plus rien. J'arrivais de nouveau plus à marcher, je ne pouvais plus rien faire. Et... il m'a emmené dans une petite église à Sombacourt, où on a connu Nicolas, je sais pas où il est. Et puis, là-bas, ils ont prié pour moi un dimanche matin. Et il s'est rien passé sur le fait. Mon mari m'a ramené dans mon lit à la maison. Et le soir, dans mon lit, à 10 heures, à partir de 10 heures, j'entendais une voix qui me disait « Je te guéris, je te guéris ». Et ça revenait régulièrement « Je te guéris ». Et j'étais tellement heureuse, tellement dans la joie. Je le tapais, puis je lui disais « Mais je suis guérie ». Puis il me disait « Mais lève-toi ». Je disais « Mais je peux pas ». Mon corps ne suivait pas, mais je savais dans mon cœur que j'étais guérie. Et c'était extraordinaire. Et le matin, à 5 heures, il m'a dit « Mais cette fois, je veux voir, faut te lever ». J'arrivais pas. Alors j'essayais, je suis tombée du lit. Et j'étais sur la descente et il y avait le radiateur à peine un mètre. Je me suis accrochée au radiateur et j'ai dit « Mais Seigneur, si c'est toi qui m'as dit « Je te guéris », fait que je puisse me lever et faire 3 fois le tour de la table, de la cuisine. Et je téléphonerai à ma maman que je suis guérie ». Elle n'était pas dans la foi, mais c'était mon vœu. Et avec en m'accrochant, en prenant du temps et tout ça, j'ai pu me lever, j'ai pu faire mes 3 fois le tour. Je lui ai téléphoné, puis après, ben, je me suis recouchée. Mais dans les 2 semaines qui ont suivi, j'étais complètement guérie. Et 2 semaines après, je prenais un travail que j'avais, parce que c'était pendant une période de vacances, et je prenais un petit travail où j'allais en face de l'autre côté de la rue. Mais le problème, c'est que je n'arrivais pas encore à rester assise suffisamment longtemps. Donc il fallait que j'aille de 7h30 à 11h30. Et là encore, on s'est unis avec la famille et on a dit, Seigneur, si tu veux que je travaille, permets que je puisse m'asseoir 4 heures de temps. Et c'est ce qu'on a fait. Et Fernand m'attendait un petit peu parce qu'il se disait, mais elle va revenir, elle va arriver. Mais non, gloire à Dieu, j'ai pu rester assise mes 4 heures et j'ai pu continuer mon travail. Donc c'est merveilleux. Mais ce que j'ai vraiment réalisé dans ce que j'ai vécu, c'est que la première fois avec cette main à l'hôpital, c'était vraiment l'angoisse, la peur, la mort. Quand Jésus guérit, c'est la joie, c'est la paix, c'est la réelle guérison, parce que je suis toujours guérie, puis c'est extraordinaire. Amen. Et ce qui est beau, c'est que j'ai l'impression... Oui, j'ai l'impression, je crois que c'est vrai, mais c'est que quand il m'a guéri, il m'a enlevé complètement la malédiction. Toute cette malédiction que j'avais accumulée au travers de tout ce qu'on avait fait, tout ce qu'on avait cherché, partout où on avait été, eh bien, le Seigneur me donnait comme un nouveau vêtement, une nouvelle santé. Et j'ai été vraiment santé à partir du jour où il m'a guéri là et quand j'ai donné notre cœur à Jésus. Et vraiment, ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Suite à ça, j'avais à cœur aussi de dire, c'est que le Seigneur m'a dit un jour, j'ai senti comme une voix, quelque chose qui me disait « arrête de fumer ». Et on n'y arrivait pas, on ne pouvait pas, on buvait, on fumait, etc. Et ce jour-là, j'ai dit « mais si tu me donnes la force, j'arrêterai ». Et instantanément, j'ai été délivrée de la fumée. Et le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire. Seulement, je n'ai pas su... voir cette bénédiction extraordinaire. Et on a rencontré des anciens amis après, où on buvait, on fumait. Et là, j'ai dit, je fais comme les autres, je bois, je fume. Et malheureusement, le jour après, mais j'ai senti une tristesse dans mon cœur. C'est comme si Dieu me disait, mais tu m'attristes, tu me fais mal au cœur. Et j'ai dit, plus jamais je ne fumerai plus. Et j'ai jamais refumé, gloire à Dieu. Il m'a pas dégoûté de la fumée, mais il m'a enlevé... il m'a donné la force de pouvoir dire non, je ne prends pas. Et vraiment, je le bénis, je lui rends grâce parce que c'est extraordinaire ce qu'il a fait pour moi. Et il en a fait tellement d'autres. Il m'a donné encore tellement d'autres guérisons, mais ce matin, on n'a pas le temps. Mais vraiment, je bénis le Seigneur. Il est vivant, il est puissant. Puis qu'il vous bénisse tous. Amen.
Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Je crois que Sylvette nous a donné quelque chose de très important dans son témoignage. Le Christ nous rachète de la malédiction et de la loi. Quand on vit sur cette terre, on ne se rend pas compte. Comme je l'expliquais avec mes mots, on ne se rend pas compte dans le pétrin qu'on est sans Dieu. Et on est sous la malédiction. On est sous la malédiction. Moi, nous avons eu 2 enfants. Moi, je n'ai pas vu mes enfants me dire « oui, papa » spontanément. Ils m'ont toujours dit non. Je disais à mon aîné Stéphane, touche pas le four, Stéphane, tu vas te brûler les doigts. Alors, parce que j'y ai dit de pas toucher le four, il allait. Voilà. Alors, on est comme ça. Donc ça nous prouve bien qu'on a besoin d'être racheté de cette malédiction, de la révolte à Dieu, de la rébellion à Dieu. Et on a besoin de se soumettre, de revenir à Dieu comme des petits-enfants et lui dire, Seigneur, je reconnais que j'ai besoin de toi. Je suis un pécheur, je suis égaré, je suis loin de Dieu. Jésus, je viens à toi et je te demande pardon pour tous mes péchés. Et Jésus, dans sa grâce, son amour, il n'hésite pas un instant de vous pardonner à chacun si vous avez un cœur simple et sincère. Amen. Ça, c'est ça qui est beau. Et j'ai vu la guérison, mon cœur est dans la joie parce que mon cœur n'est plus dans le péché, n'est plus dans ces choses. J'ai la paix, j'ai la paix de Dieu. Avant, je n'avais pas de paix, maintenant j'ai la paix. Il n'y a rien de si beau, c'est gratuit. J'ai pas dû, chez les guérisseurs, il fallait payer. Là, je ne paye rien. J'ai reçu par sa grâce la paix. Que Dieu vous donne la paix. Amen. La croix, c'est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés. Elle est puissance de Dieu. Amen. Elle est puissance de Dieu. Le monde extérieur, il n'arrive pas à comprendre que le Fils de Dieu se donne par amour pour toi et moi. Il avait vaincu Satan, Jésus. Il l'a vaincu dans le désert, il l'a vaincu avant la croix. Mais il allait sur la croix pour toi et pour moi. Il allait le vaincre pour toi. C'est ça qu'on ne comprend pas. Et Jésus nous aime trop. Qui, sans péché, irait mourir sur une croix pour un gars comme moi? Il n'y en a pas un ici, je sais. Moi non plus. Voyez? Donc Jésus a accepté le sacrifice suprême pour payer ta dette et ma dette. Amen. Donc la croix, et sur la croix, le sang coule. Le sang du Fils de Dieu coule. Il fallait que le sang du Fils de Dieu coule pour laver ton cœur. Et quand tu es dans le péché, prends le sang de Jésus. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Il est fidèle et juste pour pardonner. Si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, alors le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et problème 28:13, il dit ceci. Je pourrais l'ouvrir là, mais je crois que... Problème 28:13, il dit, celui qui avoue ses transgressions, les délaisse, obtient miséricorde. Donc Dieu nous invite ce matin à ne pas rester dans le péché et de délaisser nos transgressions, les laisser. Il faut réformer tes voies, réformer ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je donnerai le micro à...